C'est vrai. Nous devons louer l'Éternel sans réserve, car il est bon. Il a créé le ciel et la terre. Et puis, quand il a vu l'homme dans tous ses états, personne ne pouvait sauver l'humanité. Mais lui, il s'est fait homme pour venir sauver l'humanité tout entière, n'est-ce pas? Voilà pourquoi, mon frère, ma sœur, tu dois apprendre l'habitude de les louer. Tu dois apprendre l'habitude de les louer sans réserve, dans ta douche, dans ta chambre, à chaque instant que tu te retrouves seul. Loue Dieu. Loue Dieu. Avant même de lui dire quoi que ce soit, loue-le. Alléluia. Seigneur notre Dieu, nous te louons, nous te bénissons pour le privilège que tu viens de nous accorder ce soir d'être encore autour de ta table, Seigneur. Nous n'avons rien mérité, Seigneur, parce que nous connaissons nos origines, nées dans l'iniquité et conçues dans le péché. C'est pour cela, Père, nous voudrions, ô mon Dieu, Père, nous faire de petits enfants, afin que toi, tu sois élevé dans nos vies, afin que toi, tu puisses, Père, nous conduire à l'état d'homme fait. Nous voudrions compter sur toi, Seigneur Jésus. Pardonne-nous d'abord nos offenses, Papa. Nous avons dit des choses. Nous avons vu des choses. Nous avons fait des choses. Nous savons que nous n'étions toujours pas, ô mon Dieu Père, conformes à ta volonté. Alors pardonne-nous. Maintenant, Seigneur, merci pour les cantiques qui sont montés vers toi. C'était pour la gloire de ton Saint-Nom. Le travail, il n'y a que toi qui peux le réaliser. Viens maintenant prêcher ta parole, Seigneur, parce que toi, tu as dit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de ta bouche. C'est pour cela que ton peuple est arrivé. Il n'est pas venu pour acheter, pour vendre ou pour se faire voir, mais ton peuple est venu pour te rencontrer, toi, afin que tu puisses lui parler. Merci pour nous qui sommes là. Merci pour les absents. Toi seul connais le pourquoi de leur absence. Nous nous remettons entièrement entre tes mains. Ouvre les oreilles de ton peuple. Dispose le cœur de ton peuple et que tu m'accordes une langue exercée pour que je puisse apporter cette parole comme il se doit. Je te fais confiance. Je te prie. Dans le précieux nom suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ah, vous êtes là? Ok. Nous sommes reconnaissants ce soir pour ce privilège de nous retrouver encore ensemble. Alors, ma prière ce soir, au moment où nous nous retrouvons, est que tu puisses sortir d'ici étant changé par la parole que tu vas écouter. Amen. Alléluia. Amen. Étant un peu plus près du Seigneur que lorsque tu es entré. Ça, c'est ma prière vraiment. Parce que quand vous êtes dans cette disposition-là, Je vous dis, il y a des gens qui se préparent avant de venir ici et ils écoutent déjà la prédication depuis leur maison. Et quand ils arrivent ici, ils n'ont que la confirmation de ce qu'ils ont médité. Il y a plusieurs gens qui font ces expériences-là. Alléluia.
Amen.
Même pas mot pour mot, phrase pour phrase. Mais l'essentiel de ce qu'ils ont médité retrouve écho quand ils arrivent ici. C'est ça qui fait que vous pouvez vous dire, ah, Le Seigneur me connaît. Le Seigneur me connaît. Alors, il met dans mon esprit des éléments qu'il veut que je saisisse avant. Il m'explique. Donc, c'est comme un écran quand on va au cinéma. On voit ces choses quand on arrive ici. Hey, c'est quoi encore ça? Alors, mon frère, je veux que tu changes d'attitude. Puisque moi, je ne veux pas que nous venions ici par habitude. Je ne veux pas que nous venions ici sans vraiment réaliser le but pour lequel tu te déplaces. Alléluia. Sinon, quelqu'un qui va au boulot, sans comprendre pourquoi il y va, il y a un souci, n'est-ce pas? Quand on va au travail, on sait que à la fin du mois, j'aurai mon salaire et ce salaire va me permettre de nourrir mes enfants, de payer mon loyer, de réaliser mes projets. Alléluia. Amen. Alors, il va vivre en fonction de cela dans un sérieux. Alors, nous aussi, nous devons vraiment, mon frère, ma sœur, être dans cet état que chaque fois je quitte ma maison pour venir à l'Assemblée parce que je sais que j'attends une récompense à la fin de la course, n'est-ce pas? Amen. Dans le cadre du thème de la spiritualité, nous avons appris qu'un disciple accompli, c'est-à-dire NHBC2-1, écoute la parole. Il ne se limite pas à écouter la parole, mais il la met en pratique. Étant devenu mature, alléluia, il a la qualité de juger de tout et a la capacité de faire échouer le projet de Satan, comme nous l'avons vu avec Job, avec Shadrach, Meshach, Abednego. Quelle que soit la situation dans laquelle un HBC2 se trouve, il est certain de son Dieu. Alléluia. Il ne trahit pas. Alléluia. Il reste calme. Jamais un HBC2 va commencer à attribuer à Dieu des qualificatifs qui ne sont pas normaux. Jamais. Job est resté calme. D'ailleurs, quand sa femme lui dit, hey, « Mais toi, c'est quoi ça ?» Tu parles comme une femme insensée, n'est-ce pas? Hein? Ne recevons-nous pas de Dieu le bien et le mal? Dieu a donné. Hein? Dieu a repris. Que son nom soit loué. Et Shadrach, Meshach, Abednego, quand le roi les menace, hein, vous n'allez pas adorer la statue. Oh roi, sache que tu peux beau dire, nous n'adorerons pas ta statue. Hein, bon, on va voir quel est ce Dieu qui va vous sauver. Ils ont dit, l'essentiel, que Dieu nous soit favorable. Alléluia. S'il est favorable, il n'y a pas de souci. Alléluia. Alors, c'est cette intégrité. Ce sont ce genre d'adorateurs dont le Seigneur a besoin. C'est-à-dire ceux qu'il adore en esprit et en vérité. Qu'il vente, qu'il neige, qu'il pleuve, ils sont à leur poste puisque ce sont des HBC2. Alléluia. Ils attrapent des coups, mais ils ne restent pas allongés. Non. Non, ils se réveillent. Alors, qu'en est-il de toi et de moi ce soir? Ton cœur est-il sensible à la voix de Dieu? Ton cœur est-il sensible à la voix de Dieu? Ton cœur est-il sensible à la voix de Dieu? Lèvons-nous. Prenons le livre de Jérémie au chapitre 7. Jérémie chapitre 7. Jérémie chapitre 7. Nous allons commencer notre lecture à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Jérémie 7, à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Nous y sommes? Alors, lisons ensemble. Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant, c'est ici le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel, le temple de l'Éternel. Si vous réformez vos voies et vos œuvres, si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres, si vous n'opprimez pas l'étranger, l'orphelin et la veuve, si vous ne répandez pas en ces lieux le sang innocent, et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur, alors je vous laisserai demeurer dans ces lieux, dans les pays que j'ai donnés à vos pères, d'éternité en éternité. Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Alléluia. Vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole. Asseyez-vous, mes frères et sœurs. Je vais reprendre la première phrase du verset 4 pour la parole de ce soir pour toi et pour moi. Je pouvais prendre soit le verset 4 ou le verset 8, peu importe. Le sujet de ce soir, c'est espérance trompeuse. Espérance trompeuse. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, mes frères et sœurs, une question que chacun doit se poser, que chacun écrive cette question. Comme ça, ça doit traverser nos esprits jusqu'à la fin de la prédication. Voici la question. Dans ma vie pratique, de la vie chrétienne, suis-je dans l'essentiel du programme de Dieu dans ma pratique de la vie chrétienne, virgule, suis-je dans l'essentiel du programme de Dieu? Chef, tu as noté? Mémoire d'éléphant, ça va. Abel, répète-moi la question que tu te poses. Non, dans ma pratique de la vie chrétienne.
Ma pratique de la vie chrétienne.
Oui.
Dans l'essentiel
du programme. Du programme. Oh là 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 là. Ah oui, hein, voyez, hein. On fait comme ça, hein? Non, 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 non. dans ma pratique de la vie chrétienne, suis-je dans l'essentiel du programme de Dieu? Puisque quand vous allez inscrire votre enfant dans une école, il y a un programme.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Il y a un programme, on vous dit, nous sommes une école catholique, voici ceci, 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 cela, et que nous, on tient à ça, 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 n'est-ce pas?
Amen.
Ah. Apprendre ou à laisser en tant que parent, n'est-ce pas? Quand tu vas analyser le programme, tu dis, bon, dans mes attentes, je trouve que ce n'est pas ça. Alléluia. Alors, je tourne les talons, je cherche une autre école. Alors maintenant, toi, ici, quand tu viens, tu dois te rendre compte que Dieu a un programme. Alléluia. Les choses doivent se faire selon les programmes de Dieu et pas le programme d'un homme. C'est selon le programme du Saint-Esprit qui est l'inspecteur. Alléluia. Celui qui est l'enseignant principal. Alors, si toi, tu n'es pas d'abord conscient du programme de Dieu, alors tu seras la proie de toutes les doctrines possibles. Alléluia. Tu seras la proie de toutes les doctrines possibles. Alors, c'est important. Nous devons commencer par le béaba. Hein? C'est pour cela que Jean-Baptiste devait d'abord prêcher pour préparer un peuple disposé. Alléluia. Il y a un programme. Jean-Baptiste avait un programme précis pour préparer un peuple. On ne prépare pas le peuple de Dieu n'importe comment. Selon ses pensées. Tu te réveilles un matin, pas, voilà, prédicateur. Tu te réveilles un matin, voilà, pasteur. Mais c'est quoi ça comme histoire? Hein? Donne-nous le programme. Donne-nous le programme. Voilà. Alors ici, nous sommes dans une situation qui mine la chrétienté. Les gens sont dans n'importe quoi. Alléluia. On va le voir. Les gens sont dans n'importe quoi, sauf dans le programme de Dieu. Alléluia. Ils sont dans n'importe quoi, sauf dans le programme de Dieu. Espérance trompeuse des croyants. C'est ça le sujet de ce soir. Espérance trompeuse des croyants. Le nom espérance, selon Robert, c'est un sentiment qui fait entrevoir comme probable le résultat de ce que l'on désire. Le nom espérance, selon Robert, c'est un sentiment qui fait entrevoir comme probable la réalisation de ce que l'on désire. On applique ces sentiments à un objet déterminé. Une espérance de guérison. Alléluia. Une espérance de réussite. Alléluia. Alors, dans le cas de ce soir, le nom espérance est qualifié de trompeuse. On met après le nom espérance un qualificatif. Et ce qualificatif n'est pas du tout glorieux. Espérance trompeuse. Qu'est-ce que cela peut évoquer dans ton esprit? Espérance trompeuse. C'est une expression qui décrit une attente ou une anticipation qui se révèle décevante ou illusoire. Alléluia. Cela se produit lorsque les espoirs ou les prévisions ne correspondent pas à la réalité. Alléluia. Alléluia. C'est clair pour tout le monde? Très bien. Espérance trompeuse. Mon frère, ma soeur, c'est une technique ou une stratégie que le diable utilise pour t'amener à la mort. C'est un mensonge qui est utilisé depuis Genèse 3. Noah, Genèse 3, versets 4 à 5.
Alors, le serpent dit à la femme, « Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. »
Ok. Vous voyez? C'est comme si le diable avait dit, hein, suivez-moi bien, c'est comme si le diable avait dit, il y a un avantage positif à manger de ces fruits dont Dieu veut vous priver.
Oui.
Vous voyez ça? Oui. Un mensonge, une stratégie. Il vient, tout bonnement, relit encore, dit, il y a encore, chef.
Vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront. Vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal.
Ok, voyez-vous, il est tellement dangereux, il ne vous présente pas la chose, non, mais bien emballé. Et ça brille. Alléluia. Il y a un avantage, c'est comme si le diable avait dit, il y a un avantage positif à manger de ces fruits dont Dieu veut vous priver. Alors, mais la femme, oh, mais Dieu, il est quand même compliqué. Nous avons quelque chose de bon là-bas, alors il nous prive ça? Ah non, il faut qu'on y aille. Alors que c'est la mort. Donc, dans l'espérance trompeuse, mon frère, ma soeur, il y a toujours un danger de séduction dont le but reste de tromper. Alléluia.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Ah, c'est pour cela qu'il est écrit espérance trompeuse. Il y a toujours un danger de séduction dont le but reste de tromper. Alors, ce soir, il faut que les HBC2 soient informés pour que dans leur carquois, ils ajoutent encore une flèche.
Amen.
Ils sont capables de tenir en échec le projet de Satan. Et ici encore, quand il viendra de manière sournoise, vous allez veiller. Alléluia.
Amen. Alléluia.
Par ces grossiers mensonges, puisque c'est une espérance trompeuse, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas commencer à t'habituer à la parole. Alléluia. Mais mon frère, ma soeur, dès que tu t'habitues à la parole, elle ne va plus t'attirer. C'est une réalité. Dès que tu t'habitues à la parole, elle ne va plus t'attirer. Plus rien. Or, quand tu écoutes la parole, mon frère, ma soeur, je dois te dire que l'écoute de la parole, c'est une formation permanente.
Amen.
Alléluia. C'est une formation permanente. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Médite-le jour et nuit et agis fidèlement selon ce qui est écrit. Tu vois? L'écoute de la parole, mon frère, ma sœur, c'est une formation permanente. Alléluia. Donc, chaque jour, tu fais des expériences nouvelles avec le Seigneur. Le Seigneur te révèle des choses selon tes besoins du jour. Alléluia. Le Seigneur ne fait pas votre système de micro-ondes. Non. C'est le Seigneur, il n'y a pas de système de micro-ondes. Alléluia. Amen. Chaque jour, vous ne ramassez pas. Vous ne ramassez pas la manne pour deux jours. Non. Mais vous ramassez la manne pour un jour selon la portion de ta maison. Oui. Alléluia.
Amen. Amen.
Et si vous gardez la manne va pourrir. Vous voyez? Donc, l'écoute de la parole, c'est une formation permanente. Chaque jour, alléluia, pas de micro-ondes, pas on va chauffer. Non, 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 non. Dieu ne procède pas comme ça. Alléluia. Alors, question. Comment vit-on la pratique chrétienne aujourd'hui dans la plupart des cas? Comment vit-on la pratique chrétienne aujourd'hui dans la plupart des cas? Ceux qui se disent chrétiens, au lieu de se préparer en écoutant la parole et en la mettant en pratique, ils se livrent à des espérances trompeuses. Or, il est écrit, Jérémie 7, 4, qu'est-ce qu'il dit?
Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses.
Justement.
En disant.
C'est là. Ici, Dieu interdit. Dieu interdit à ses enfants de se livrer à des espérances trompeuses. Dieu interdit cela. Donc, le message, le départ soudain et secret de l'Église, à la page 4, à la page 4, paragraphe 19, par rapport à cette question que je pose, comment vit-on la pratique chrétienne aujourd'hui dans la plupart des cas? Le message est dit, les gens vivent aujourd'hui comme si juste avant la venue du Seigneur Jésus, il allait envoyer une cohorte d'anges à tous les journaux et que pendant environ une année, on annoncerait cela dans les journaux à travers le monde entier, disant à telle date, Jésus viendra. Et que cela serait diffusé à la radio et à la télévision et partout en indiquant le jour précis et l'heure exacte où il viendrait. Maintenant, c'est ainsi que les gens vivent aujourd'hui. Mais Dieu a dit dans sa parole
Amen.
Que ce serait comme un voleur venant dans la nuit.
Amen.
1 Thessaloniciens 5,
oui.
1, 2.
Pour ce qui est des temps et des moments, vous n'avez pas besoin, frère, qu'on vous en écrive. Car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit.
OK. Et au verset 6, qu'est-ce qu'il dit?
Ne dormons donc point.
Ah! Qu'est-ce qu'il faut faire?
Veillons.
Voilà.
Soyons sobres.
Voilà. Donc, l'exhortation ici, tu dois veiller. C'est pour cela que tu es un HBC2. Tu dois veiller et être sobre dans ta manière d'être. Alléluia. Maintenant, je voudrais qu'on puisse examiner cette affaire d'espérance trompeuse. Alors nous devons avoir de bonnes loupes pour examiner cette situation avec soin. Parce que c'est une situation très, très dangereuse. dans l'église. Alléluia. Au lieu d'être dans le programme de Dieu, mais les gens sont dans des espérances trompeuses. Mais c'est quoi ça comme histoire? Mais puisque les gens sont aveuglés, les gens, au lieu de veiller, au lieu d'être sobres, ils sont occupés à d'autres choses. Il est question de te livrer à ce qui est essentiel selon Matthieu 6, 33. Qu'est-ce qu'il dit? Matthieu 6, 33.
Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu.
Oui.
Et toutes ces choses vous seront données par-dessus.
Ok. Tu t'arrêtes là. Donc ici, c'est ça l'essentiel. Au lieu d'être dans ce qui est essentiel, tu es dans ce qui est accessoire. Alléluia. Tu es dans ce qui est accessoire, c'est-à-dire tu es dans les espérances trompeuses. Pitié. Pitié. Mais où est passé l'essentiel? La maison doit être construite avec de matériaux essentiels. Amen. Pas de bric-à-brac, non. Dieu va construire sa maison avec de pierres bien taillées.
Amen.
Essentielles. Mais tu vois, tu es dans l'accessoire, tu es les espérances trompeuses. Oh, mais oui, vous savez, chez nous, le pasteur est cool, le diacre, le frère. Oh, mais oui, mais franchement, c'est nous, quand tu entends, quand on chante, c'est comme si c'était une chorale qui descendait du ciel. Papa, ça, c'est l'accessoire. Ce n'est pas l'essentiel. C'est bien, mais ce n'est pas mieux. Alléluia. Amen. Alors, nous allons retourner à Judas. Dans Jérémie 7. Nous sommes en Juda. Et c'est là où le prophète Jérémie parle. Premier cas à examiner, nous retournons dans Juda. Jérémie 7, verset 4, il dit, « Ne vous livrez pas à des espérances trompeuses en disant. » Suivez bien. Qu'est-ce qu'ils disent? C'est ici le temple de Dieu, première fois, le temple de l'Éternel, deuxième fois, le temple de l'Éternel. Voyez-vous? Donc, il y a un problème ici. Les gens en Juda, parce que le temple se trouve à Jérusalem, pour eux, c'était l'essentiel. Alléluia. Le peuple est dans une fausse religion. Ils croyaient que le châtiment de Dieu n'atteindrait jamais Jérusalem ni le peuple. Tu lis Jérémie 5, versets 11 et 12.
Car la maison d'Israël et la maison de Juda,
oui,
m'ont été infidèles,
oui,
dit l'Éternel.
Oui.
Ils renient l'Éternel, ils disent, il n'existe pas.
Oui.
Et le malheur ne viendra pas sur nous.
Voilà.
Nous ne verrons ni l'épée, ni la famine.
Voyez-vous? Pourquoi il dit cela? Parce que le temple est à Jérusalem. Alléluia. Espérance trompeuse. Et Dieu vient, il parle. C'est une espérance trompeuse. Mais l'épée viendra sur vous. Hein? Parce que vous vivez mal. Vous me reniez. Mais eux, oh non. Non, vous avez non, le temple là. Hein? Oh, comment ça? Ok. Mais Dieu dit, c'est une espérance trompeuse. La parole prononcée par Jérémie détruisit cette fausse espérance et exposa la plaie purulente de l'idolâtrie qui engendrait une gangrène parmi le peuple. Le peuple de Juda voyait le temple comme un talisman ou un porte-bonheur capable de repousser toute attaque, alors qu'il s'agit de l'Éternel, n'est-ce pas? Mon frère, ma soeur, La protection divine ici serait assurée au peuple seulement s'il réformait ses voies. Alléluia. Amen. Jérémie 7, versets 5 à 7. S'il réformait leurs voies.
Si vous réformez vos voies.
Oui.
Et vos œuvres.
Oui.
Si vous pratiquez la justice envers les uns et les autres.
Oui.
Si vous n'opprimez pas l'étranger.
Oui.
L'orphelin et la veuve.
Oui.
Si vous ne répandez pas en ce lieu le sang innocent.
Oui.
Et si vous n'allez pas après d'autres dieux pour votre malheur.
Oui.
Alors, je vous laisserai demeurer dans ce lieu, dans le pays que j'ai donné à vos pères d'éternité en éternité.
Voyez-vous? C'est la seule condition où le peuple pouvait bénéficier de la protection divine. Et il cite en quoi ils devaient réformer leur voie. Tac, 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 tac. Mais sans cela, l'épée tombera sur vous. Alléluia. Dieu parle. Il ne parle pas en cachette. Maintenant, es-tu sensible à la voix de Dieu? Hein? Ça revient. Es-tu sensible à la voix de Dieu? Dieu te dit clairement ce que tu dois faire. Es-tu sensible à la voix de Dieu? Mais tu te confonds dans les espérances trompeuses. Les temples, les temples, les temples. Non, messieurs. Alléluia. Premier cas, en Juda, parce qu'il y avait le temple à Jérusalem, le peuple pensait que les malheurs ne pouvaient pas s'abattre sur eux, alors qu'il régnait Dieu. Non. Et Dieu donne toutes les conditions. Alléluia.
Amen.
Au verset 8, il dit, « Mais voici, vous vous livrez à des espérances trompeuses qui ne servent à rien. » Alléluia. Donc ce soir, comprenez bien, mes frères et sœurs, les espérances trompeuses ne servent à rien.
Amen.
Mais dans la chrétienté, nous sommes souvent dans les espérances trompeuses. Allons chez les Galates, vérifier ces mensonges. C'est le deuxième examen. Galates 6. 17 Noah.
Que personne désormais ne me fasse de la peine.
Oui.
Car je porte sur mon corps les marques de Jésus.
Ok. Donc celui qui s'est fait circoncis pendant la nouvelle alliance ne croit pas à ce que Noah vient de lire, c'est-à-dire ne croit pas à Galates 6, 17. C'est-à-dire à l'œuvre de la croix. C'est de cela dont Paul parle. Dans la nouvelle alliance, celui qui s'est fait circoncis ne croit pas à Galates 6, 12. Et Paul, auparavant, dans Galates 5, verset 2, il parle.
Voici moi, Paul.
2, 3. Galates 5, verset 2 et 3.
Voici moi, Paul. Je vous dis que si vous vous faites circoncire, Christ ne vous servira de rien. Et je proteste encore une fois à tout homme qui se fait circoncire qu'il est tenu de pratiquer la loi tout entière.
Ok. Donc c'est fait. Circoncire, selon Paul, c'est l'esclavage. Et c'est ainsi que Paul va lancer un avertissement sévère aux Galates qui envisageaient de se soumettre à ces rites. Mais ce que vous devez saisir ce soir, ce n'est pas que Paul condamnait la circoncision en elle-même. La preuve en est qu'il a fait circoncis Timothée. Vous le savez. Mais qu'est-ce qu'il condamnait? Il s'opposait fortement à la théologie judaïste selon laquelle la circoncision était nécessaire au salut. Or, il est écrit dans Éphésiens 2, 8 Verset 8 et 9, qu'est-ce qui est écrit?
Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi.
Oui.
Et cela ne vient pas de vous.
Oui.
C'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie.
Vous voyez ici, Paul montre aux Galates qu'attention, il y a un problème. L'essentiel ici, c'est la foi agissante par la charité, il dit dans Galates 5, verset 6. C'est là où se trouve l'essentiel, pas la circoncision.
Car en Jésus-Christ, ni la circoncision,
oui,
ni l'incirconcision,
oui,
n'a de valeur.
Qu'est-ce qui a de valeur?
La foi qui est agissante par la charité.
Vous comprenez? Les gens veulent retourner à ces rites-là, hein? Mais Paul dit, ce qui a de la valeur, donc ce qui est essentiel. Alléluia!
Amen!
Pantalon, maquillage, oui, c'est bien. Je le dirai toujours, oui, c'est bien. Mais ce n'est pas mieux. Alléluia. C'est bien, mais ce n'est pas mieux. Il ne s'oppose pas à la circoncision. Puisque sinon, il ne le ferait pas pour Timothée, n'est-ce pas? Il nous montre ce qui est essentiel, c'est la foi agissante par la charité. Et il dit encore, dans Romains 2, versets 28 et 29.
Le juif, ce n'est pas celui qui en a les dehors.
Oui.
Et la circoncision, ce n'est pas celle qui est visible dans la chair.
Oui.
Mais le juif, c'est celui qui l'est intérieurement. Et la circoncision, c'est celle du cœur.
Voilà.
Selon l'esprit et non selon la lettre.
OK. Vous avez entendu? Mais on va vous emmener des histoires où vous allez perdre vos énergies. Il y a des théories et des théories. Mais alors que ça n'a même pas de valeur. Ce n'est pas ça qui est essentiel. Alors, l'essentiel qui t'amène au ciel, c'est la circoncision du cœur, selon l'esprit, dit Paul. La véritable circoncision, ne pas le rite physique lui-même. Alléluia. Le vrai juif, c'est plutôt celui qu'il est intérieurement. La circoncision du cœur, c'est le dépouillement complet. Il est écrit, Colossiens 2, verset 11, et 12.
Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair.
Voilà. Vous avez entendu? Ce n'est pas ce rituel, on doit voir. Non. C'est la circoncision du cœur qui est le dépouillement complet. Ne te contente donc pas de l'accessoire au lieu de l'essentiel. Mon frère, ma soeur, tu es resté longtemps à l'accessoire, mais l'essentiel, tu n'arrives pas à le capter. Voilà. Au lieu d'avoir un GSM, chef, toi tu te promènes avec le chargeur, avec la pochette pour que... Mais oui, le GSM. Le chargeur, c'est l'accessoire. La pochette, c'est l'accessoire. Mais tu dois avoir l'appareil. Est-ce qu'on se comprend? Ce sont des accessoires du GSM. C'est vrai. Tu en as besoin. Mais il faut d'abord l'essentiel. L'essentiel, c'est ton appareil, n'est-ce pas? Est-ce que vous comprenez? Je prie chaque jour. Très bien, mon frère. Très bien. Tu pries chaque jour, mets dans ton cœur la haine, l'orgueil, la jalousie s'y trouve. Mais où est passé l'essentiel? Où est passé l'essentiel? Jean 13, Jean 4 et 35. Où est passé l'essentiel? Tu pries, hein, chaque jour. Voilà.
Je vous donne un commandement nouveau.
Oui.
Aimez-vous les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres.
Oui.
À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples.
Oui.
Si vous avez de l'amour les uns pour les autres.
Oui. Voyez-vous? Tu pries chaque jour, oui, mais dans ton cœur, il y a la haine, l'orgueil, la jalousie. Mais où est passé l'essentiel? L'essentiel, c'est notre uniforme. C'est notre identité. C'est là où nous sommes identifiables. Et voilà, celui-ci, c'est un HBC2. Qui a ton uniforme? Alléluia. Mais on a oublié l'essentiel. Troisième examen. Allons voir un peu chez les pharisiens. Allons voir chez les pharisiens. Noah.
Amen.
Luc 18. Luc 18, versets 11 et 14.
Le pharisien, debout, priait ainsi en lui-même.
Oui.
Oh Dieu.
Oui.
Je te rends grâce de ce que je ne suis pas comme le reste des hommes.
Très bien.
Qui sont ravisseurs.
Voilà.
Injustes.
Oui.
Adultères.
Oui.
Ou même comme ce publicain.
Oui.
Je jeûne deux fois par semaine.
Oh.
Je donne la dîme de tous mes revenus.
C'est parfait. Allez-y. Continue.
Le publicain se tenait à distance. N'osait même pas lever les yeux au ciel.
Oui.
Mais il se frappait la poitrine.
OK.
En disant... « Oh Dieu, sois apaisé envers moi,
oui.
Qui suis un pécheur. »
Oui.
Je vous...
Il est parti chez lui, justifié. N'est-ce pas? Vous voyez, ici, le pharisien, il est dans l'accessoire. Il gêne, hein? Il donne sa dîme, il n'est pas ravisseur, il n'est pas adultère, OK? Regardez comment le Seigneur va surprendre. Matthieu 23, verset 23. Le Seigneur va surprendre.
Malheur à vous,
oui.
Scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous payez la dîme et de la menthe,
oui.
De la nette et
oui.
Du koumim,
oui.
Et que vous laissez ce qui est plus important dans la loi.
Voici.
La justice,
oui.
La miséricorde,
oui.
Et la fidélité.
Ok. Tu t'arrêtes là. Vous voyez l'essentiel? Vous voyez l'essentiel? Mais ils sont dans l'accessoire. Mais l'essentiel ici, le Seigneur vient. Il surprend. C'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Alléluia.
Amen.
C'est ça l'essentiel. C'est ça l'essentiel. Tu payes ta dîme, très bien. Tu vois encore? Tu jeûnes, très bien. Mais ce n'est pas mieux. Le plus important, comme il est écrit, c'est la justice, la miséricorde et la fidélité. Bon, ça marche. C'est le Seigneur qui vient surprendre, qui change les tableaux. Tu es dans quelque chose qui te trompe. Ce n'est pas l'essentiel. Il vient, il te montre ce qui est essentiel. Hein, mon frère, ma soeur, ton titre est de gloire. Je ne bois pas. Alléluia. Je ne suis pas adultère. Je ne suis pas ravisseur. Alléluia. Moi, je n'aime pas les fêtes. D'ailleurs, elles ne me disent rien. Moi, je m'en fous. OK. Mais tu n'as pas l'amour du prochain. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleuse. Alléluia. Tu es colérique. Alors tu es où? Avec ton histoire, je ne suis pas ravisseur. Je ne suis pas adultère. Je ne bois pas du vin. Je ne fais pas ci, je ne fais pas ça. Hein? Mais tu n'as pas l'amour du prochain. Tu es orgueilleux. Tu es orgueilleuse. Tu es colérique. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Ce soir, c'est un piège que Satan te tend tout le jour. Au lieu d'être dans le vrai programme de Dieu, tu es dans ce qui est accessoire. Écoute ce que dit Ésaïe 25:6. Dis-le-moi un peu, Noah. Je ne bois pas du vin. Je n'aime pas les fêtes.
Comme
je ne fais pas ceci. Ça, c'est ton titre de gloire. Ouais. Il faut dire les choses telles qu'elles sont. Et nous appuyons par les Écritures. Lis-moi Ésaïe 25.
Comme tu domptes la chaleur dans une terre brûlante, tu as dompté le tumulte des barbares.
Ésaïe 25, verset 6.
L'Éternel des armées prépare à tous les peuples.
Oui.
Sur cette montagne.
Oui.
Un festin de mets succulents. Un festin de vin vieux.
Oui.
De mets succulents.
Oui.
Plein de moelle.
Oui.
De vin vieux.
Oui.
Clarifié.
Oui. Tu as entendu? Tu as entendu? Donc la délivrance accordée par Dieu à son peuple dans les royaumes à venir est présentée comme un festin. Pas moi qui l'ai dit, hein, boss. Cela est présenté comme un festin. Et qu'est-ce qu'il y aura dans ce festin? Noah. Mais qu'est-ce qui se passe, Noah? Ésaïe 25, verset 6.
Des mets succulents.
Oh! Et puis?
Un festin de vin vieux.
Hey!
Plein de moelle.
Et toi, tu n'y seras pas. Dans ce festin-là, tu n'y seras pas. Alléluia. Je ne suis pas en train d'exhorter les gens à devenir des ivrognes. Hein? Toutes raison gardée quand même, n'est-ce pas? Mais nous voyons ici, hein? La délivrance accordée par Dieu à son peuple dans les royaumes à venir est présentée comme un festin. Et nous voyons ce qui va se planter dans ce festin. Alléluia.
Amen.
Très bien. Ce n'était qu'une parenthèse. Puisque ton titre de gloire, hein, je ne bois pas, je ne suis pas adultère, je ne suis pas volé. Est-ce que tu es sûr, c'est l'essentiel? Hein? Tu es sûr, c'est l'essentiel. Quatrième examen. Allons voir le Seigneur lui-même. Matthieu 15, verset 1 jusqu'à 20, on ne va pas lire tout. Lis le premier verset.
Alors, des pharisiens et des scribes vinrent de Jérusalem auprès de Jésus.
Oui.
Et dirent, pourquoi tes disciples...
Attends, je t'ai dit premier verset. Tu es déjà au deuxième verset. Hein? Contrôle tout, hein, Noah. Je t'ai dit premier verset. Donc, le Seigneur lui-même ne respectait pas la tradition, par exemple, se laver les mains avant de manger. Maintenant, tu vas au verset 2. On lui pose une question.
Pourquoi tes disciples transgressent-ils la tradition des anciens?
Ok.
Car ils ne se lavent pas les mains quand ils prennent leur repas.
Oui.
Il leur répondit. Et vous?
Laisse cette réponse après. Je commente d'abord. Cette tradition consistait en un minutieux rituel de lavement incluant non seulement les mains, mais aussi les coupes, les cruches et les vases selon Marc 7, verset 3 et 4.
Or, les pharisiens et tous les juifs ne mangent pas sans s'être lavés soigneusement les mains.
Oui.
Conformément à la tradition des anciens.
Oui.
Et quand ils reviennent de la place publique, ils ne mangent qu'après s'être purifiés. Ils ont encore beaucoup d'autres observances traditionnelles comme le lavage des coupes, des cruches et des vases d'airain.
Vous avez vu? Alors maintenant, à la question 2, il va répondre. Donne-nous la réponse. Verset 4 jusqu'à 7. Luc, Matthieu 15.
Car,
15, verset 4 et 7. Il va répondre à la question des pharisiens.
Car Dieu a dit, honore ton père et ta mère. Et celui qui maudira son père ou sa mère sera puni de mort.
Oui.
Mais vous, vous dites, celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu, n'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition.
Oui.
Hypocrite. Esaïe a bien prophétisé sur vous.
Oui.
Quand il a dit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi.
Ok. Vous avez entendu? Donc, c'est l'essentiel que le lavage de mains. L'essentiel, c'est d'honorer son père et sa mère que le lavage de mains. Mais eux, au lieu d'honorer, ils transgressent continuellement le cinquième commandement explicite de Dieu qui est dans Exode 20, verset 12. Ils les transgressent continuellement.
Honore ton père et ta mère.
Oui.
Afin que tes jours se prolongent dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, te donne.
Ok, le Seigneur leur pose la question. Vous annulez ainsi la parole de Dieu au profit de votre tradition, les lavages de mains. Ce n'est pas ça l'essentiel. Honore ton père et ta mère. Alléluia. Mon frère, ma soeur, les lavages de mains semblent spirituels, mais en réalité, c'est une espérance trompeuse. Alléluia. Seigneur, viens de le démontrer. Pour le rabbin, le pharisien, ça c'était vraiment nickel. Mais le Seigneur vient, lui qui est la parole, il les remonte. Mais pourquoi annulez-vous, transgressez-vous le cinquième commandement? Et vous donnez une explication. L'explication qu'il donne est verset 5. Ça un peu. Matthieu 15, verset 5.
Celui qui dira...
Non. Matthieu 15, verset 5.
Mais vous, vous dites...
Oui.
Celui qui dira à son père ou à sa mère, ce dont j'aurais pu t'assister est une offrande à Dieu...
Faux.
N'est pas tenu d'honorer son père ou sa mère.
Voilà, c'est faux. C'est une excuse... C'est une excuse au lieu d'observer le cinquième commandement d'honorer son père et sa mère. Espérance trompeuse. Mon frère, ma soeur, il faut te méfier. Il faut te méfier de toute espérance trompeuse comme on vient de le parcourir. On a fait 4 examens. Si tu arrives dans ta marche à bien comprendre ce qui est essentiel, il y aura un grand réveil dans ta vie et dans l'Assemblée.
Amen.
Alléluia. Un grand réveil, parce que tu seras dans le programme de Dieu.
Amen.
Ce qui s'est passé au pays des Galles, ou ce qui s'est passé à Azusa Street, numéro 312, pas se produire ici.
Amen.
Alléluia. Parce que tu es dans le programme de Dieu. Dans le programme de Dieu, le feu déferle toujours. Alléluia. Mais Amen. Il faut que tu sois dans l'essentiel, pas dans l'accessoire. L'essentiel, c'est la foi agissante par la charité, disait Paul. Alléluia. Cela t'amènera au ciel. Tu te vantes, hein? Ça, je sais. Tu te vantes sans cesse, tu es du message. Hein? Oh, ça! Ne ratez pas les gens. Tu es du message. Mais c'est ton opinion. C'est comme dans Apocalypse 3. Lis un peu. Apocalypse 3, 17.
Parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu.
Voilà. Donc c'est toi, c'est ton opinion. Tu te vantes, tu es du message. Mais en fait, tu es dans l'accessoire, toi. Tu n'es pas dans l'essentiel. Hein? Tu es dans l'accessoire. Ça ne commence pas par toi. Dans les âges de l'Église, vous venez de l'entendre. Et exposé de cet âge de l'Église, page 341, le messager dit, Apocalypse, c'est que Noah vient de lire, Apocalypse 3, verset 17 à 18, parce que tu dis, je suis riche, je me suis enrichi, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu, afin que tu deviennes riche, et des vêtements blancs, afin que tu sois vêtu, et que la honte de ta nudité ne paraisse pas, et un colis pour poindre tes yeux, afin que tu vois. Regarde maintenant la première partie de ce verset, parce que tu dis, vous voyez, ils parlent en pensant qu'ils sont porte-parole de Dieu. Tu te vantes tout simplement que moi je suis du message. Mais en fait, tu es un vase vide. Il n'y a rien. Hein? Tu es aveugle, ni tu ne vois pas. Alléluia. Ceci démontre exactement ce que j'ai dit au sujet du sens des versets 16 et 17. Mais ce n'est pas parce qu'ils disent, tu comprends? Ce n'est pas parce qu'ils disent, c'est vrai. Ce n'est pas parce que toi, tu te vantes, tu es du message que c'est vrai. C'est pour cela que j'ai dit, c'est ton opinion. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Tu t'es habillé toi-même du vêtement que tu es du message. Ce n'est pas vrai. L'Église catholique dit qu'elle parle de la part de Dieu. Elle dit qu'elle est vraiment la voix de Dieu. Comment des gens peuvent-ils être spirituellement si pervertis? Voyez-vous? Cela me dépasse, mais je sais qu'ils produisent selon la semence qui est en eux. Et nous savons d'où vient cette semence, n'est-ce pas? L'Église de Laodicée dit, je suis riche, je me suis enrichi, et je n'ai besoin de rien. C'est là son opinion d'elle-même. Elle s'est regardée et voilà ce qu'elle voit. Elle dit, je suis riche. Ce qui veut dire qu'elle a beaucoup de biens dans ce monde. Elle se vante. Alléluia. Est-ce que tu es dans l'essentiel? Tu es dans le programme de Dieu? C'est ça le problème. Il est question ici ce soir de reformer nos voies. Si nous voulons être en alliance avec Dieu, nous devons reformer nos voies. Dieu ne cède pas aux fausses espérances. Non. Mon frère, ma soeur, fais attention à la méconnaissance de l'essentiel. Alléluia. Fais attention à la méconnaissance de l'essentiel. Conforme-toi à ce que Dieu demande. Alors, suis bien. Le travail dans ton cœur doit se faire avec plus de profondeur que jamais, hein, pour détruire les fausses espérances. Alléluia. Puisque le problème, c'est là. Ton cœur est-il sensible à la voix de Dieu? Et les fausses espérances, c'est dans ton cœur. Alors le travail doit être fait d'une manière, alors, d'une manière rigoureuse, en profondeur. Pour que Dieu puisse t'aider à détruire les fausses espérances. Alléluia. Alléluia.
Amen.
Alléluia.
Amen.
Alors, tu peux répondre à la question que tu t'es posée en début de prédication? Tu peux répondre? Dans ma pratique de la vie chrétienne, suis-je dans l'essentiel du programme de Dieu? Maintenant, tu peux répondre? Tu as tous les éléments. Alléluia. Tu as tous les éléments. Ma prière est que toi, tu sois l'instrument par lequel la chaudière va s'allumer dans ce lieu. Alléluia. C'est ça ma prière. Donc, tu es déjà informé. Attention aux fausses espérances. Alléluia. Il faut être dans le programme de Dieu. Ce qui est essentiel. Que Dieu vous bénisse. Ah, être dans le programme de Dieu. Alors, si tu es un chauffeur de dimanche, ça sera difficile. Si tu es chauffeur de dimanche, ça sera difficile pour nous suivre. Oh, quand j'ai songé à l'amour de Jésus
et à tout ce qu'il
a fait pour moi, je veux chanter Alléluia. Merci pour Seigneur Jésus, nous devons réformer nos voies si nous voulons être dans ton alliance. Ces choses, Seigneur, se passent en nous sans qu'on les sache. Nous perdons notre temps dans ce qui est accessoire, alors que nous oublions l'essentiel. Nous courons, nous courons, nous courons, nous courons. Mais nous ne sommes pas dans l'essentiel. Oh Seigneur, aie pitié de nous. Maintenant que tu viens encore de parler, parce que tu savais que c'était un souci pour tes enfants, ma prière est que tu nous ouvres les yeux. Tu nous ouvres les oreilles, Seigneur. Et maintenant, que tu nous accordes la grâce de nous examiner et de passer à la pratique. Que cela ma prière, Seigneur. Merci, tu ne parles pas en vain. Et comme tu ne parles pas en vain, Seigneur Jésus, cette semence qui vient d'être plantée, nous espérons que ça portera des fruits par ta grâce. Honneur et gloire te soient rendus pour nous qui avons été présents autour de ta table. Nous te prions encore de te souvenir, ô mon Dieu, Père des absents. Si Tu nous permets d'avoir encore la possibilité de nous revoir le vendredi. Ça sera pour la gloire de ton Saint-Nom. Merci, Papa. Tu as pourvu pour que nous puissions être ici ce soir. Maintenant, nous allons retourner chez nous et tu nous accordes la faveur de rentrer comme nous sommes venus. Honneur et gloire te soient rendus. Je t'ai ainsi prié dans le précieux nom et suffisant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. La réunion de ce soir est terminée. Allez dans la paix du Seigneur.